Vous bougeaient, réguliers comme des muscles de machine, ils grognaient les dents serrées. Au-dessus du trou, on entendait passer la mitrailleuse, elle griffait là tout autour avec ses ongles de fer. On entendait le déclic de ses grandes pattes, puis ce tressaillement de tout son corps, quand elle se secouait puis elle sautait comme un oiseau, grattait son corps métallique, puis la terre fumait sous ses griffes. Là-haut la nue grise s'ouvrit, un peu de bleu parut un bleu sale et comme plein de pus, mais avec une goutte du blond soleil de là-haut. Chauvin regarda en l'air. « Salaud !» il dit. Il se remit à creuser la terre. Il baissait tant la tête qu'il avait les moustaches pleines de boue. « Ta musette ?» demanda Chauvin Olivier, le dos rond, écartait à pleine main dans le trou un fouillis de courroies d'équipements et de draps enterrés. Une douce odeur de pourriture coulait du trou comme un sirop. « Ta musette !» gueula Chauvin. Olivier releva la tête. « Quoi ?» Chauvin se rapprocha jusqu'à toucher de sa visière de casque la visière d'Olivier. « Ta musette, il dit ta musette, t'as de quoi ? T'as de quoi manger dedans ? Manger ?» s'étonna Olivier. Il eut un brusque regard vers ce trou où il fouissait à pleines mains et d'où l'odeur coulait, avec toute sa force et toute son épaisseur. « Oui, manger !» dit Chauvin. Il était resté là. Il n'avait pas reculé son visage d'un centimètre, il avait planté son regard fixe dans les yeux d'Olivier et il ne le lâchait plus. Au fond de la musette, sous les grenades, il restait un morceau de pain tout roux de rouille. Olivier le donna à Chauvin. L'autre le partagea en deux. « Moitié », il dit en tendant le morceau à Olivier. Dans l'instant, il se baissait tout recroquevillé parce qu'un gros obus avait rasé le trou. À cet endroit qu'Olivier creusait, la pelle s'était soudain enfoncée toute seule. Elle était ressortie toute huilée d'une graisse noire, gluante comme de la poix. Olivier n'osait plus creuser. À genoux devant ça, il mâchait et remâchait son pain. Il sentit comme une présence derrière lui. On le regardait. Il se retourna. C'était sur l'autre bord du trou, un homme couché et qui avait la figure toute noire. Sa cervelle coulait par une large blessure en coin. Il ne regardait pas, c'était un petit morceau rond et blanc de cette cervelle qui faisait le regard parce qu'il était collé sur ce noir de l'œil, sur l'œil pourri et plein de boue. Malan poussa la porte du cercle des travailleurs. « Ferme la porte, Firmin !» on lui cria. « Ferme la porte, il fait un froid de verre !» Ils étaient tous là, autour du grand poêle, à se chauffer les genoux et les cuisses et à fumer leurs longues pipes. « Alors donc, vous le craignez comme de petites amandes ce froid, » dit Malan. Mais il approcha sa chaise du rond et il dit, « Poussez-vous un peu, que diable, que je fume moi aussi !» Il tira sa pipe de terre. Elle était toute blanche du suçoir au culot. « Elle est neuve, » demanda Pancras. « Juste je l'achète, » dit Malan. « Ça doit se fumer doucement, » dit Pancras. « Doucement et avec des repos et puis, pas la quitter chaude sur le marbre, » dit Malan. Et il sortit sa grande blague en vessie de porc. Olivier, les mains sur la nuque, criait « Moi, moi !» Ça avait fait sauter son casque. Le coup était arrivé sur eux sans prévenir, avec un grand « en » de tout le ciel. La terre était encore là à chavirer. Maintenant, c'était le ronron du silence mais c'était un silence d'oreille, parce que là, tout autour, la terre jaillissait en jets épais et sans arrêt. Olivier entendait sa voix hors de lui, comme venu d'un autre que lui. « Moi, moi !» Enfin il entendit aussi une plainte grave et longue comme le bruit d'un bassin qui se vide. Il regarda par-dessous son bras. Chauvin était renversé sur le dos au fond du trou, cassé, plié sur son ventre, il regardait ce morceau de ciel bleu. Ses yeux étaient comme de la pierre. Il pataugeait à deux mains dans son ventre ouvert, comme dans un mortier. Ses poings faisaient le moulin, ses tripes attachaient ses poignets. Il s'arrêta de crier. Il était tout empêtré dans ses tripes et, en raidissant ses bras, il les tira comme ça en dehors de son ventre. Olivier enleva ses mains de la nuque. Il regarda ses mains, pas de sang. « Non pas moi », il dit. Mais il sentit dans lui comme une grande envie de vomir. Ça montait, ça gonflait ses joues, ça poussait ses lèvres et il ouvrit sa bouche sur son hurlement d'homme seul qui recommençait. « Du côté de Verdun, » dit Malan. Ça, dit Cléristin en tapant du plat de la main sur le papier glacé de l'illustration, il faut le voir pour le croire. Encore, ces photographies, moi je dis qu'on les arrange, c'est pas difficile. Regardez le père Lozy, d'un nez tordu, il te fait un nez droit. Il te photographierait Burl, il t'en ferait un bel homme. » Burl retira sa pipe de la bouche. Saint Labre qui se moque de son chien, il dit. « Nous, en Septante, commença Firmin. On a beau faire quand même, dit Cléristin qui regardait encore le journal, c'est des morts, c'est bien des morts, c'est rien que des Allemands. Le petit me disait qu'on a un canon. Lui, il est au Mont-Valérien à Paris, il le sait, Verda, qu'il crie, juste au coin du bois, continuait Firmin. Merde que j'y dis, il en est resté comme ça. Et le vieux Firmin resta un moment immobile, la bouche ouverte, les yeux ronds, puis il se mit à rire. Du côté de Verdun, dit Malan, tu t'imagines pas ce que c'est, toi, avec tous ces forts en ciment armés. Il y a de tout là-dedans. Et les cuisines, et les...